Frères et sœurs, bonsoir. Amis et visiteurs, bonsoir. Donc, ce soir, nous poursuivons et nous terminons, si vous voulez. Nous poursuivons sur le message de la santé, mais ce sera la dernière présentation en tant que telle là-dessus. Puis ensuite, vous allez poursuivre avec les prophéties avec Jean-Michel la semaine prochaine. Donc, ce soir, nous terminons avec une approche plus sur la santé mentale, l'importance de la santé émotionnelle dans notre marche, parce que ça va de pair avec la santé physique, mais on va se concentrer ce soir surtout sur la santé émotionnelle. Donc, encore une fois, je vous invite à vous mettre à genoux avec moi si vous pouvez, ou sinon au moins courber la tête pour la prière d'introduction du message de ce soir. Notre Père, notre Dieu, nous ne devons pas négliger, Seigneur, l'aspect du mental dans notre santé. C'est primordial pour l'équilibre, Seigneur, et dans toutes les lois que tu nous as données, c'est-à-dire la première des 8 lois, dans la confiance que nous avons envers toi, nous voyons comment est-ce que notre émotionnel est relié au fait que tu existes. Comment notre émotionnel est relié au fait que tu interviens pour résoudre les problèmes de notre vie. Et comment est-ce que nous devons nous comporter, Seigneur, avec nos semblables pour avoir du succès dans ce monde. Accompagne-nous alors que nous allons réfléchir là-dessus et permets que nous progressions, Seigneur, dans notre application de la santé émotionnelle. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc ce soir, je vais partager avec vous plusieurs citations qui sont principalement tirés du livre « Le ministère évangélique ». Il y en aura d'autres du ministère de la guérison. Et je vais aussi partager des versets avec vous et puis les résultats d'études par rapport à la santé émotionnelle. On avait vu dans la première présentation, chaque fois on faisait référence que Dieu veut qu'on ait la vie en abondance et puis que c'est lui qui nous a fait. Donc c'est lui qui sait mieux que quiconque comment est-ce que nous fonctionnons. Et on va voir que dans ce qui nous a inspiré à travers la parole de Dieu, puis à travers les écrits inspirés que je vais vous lire, la science va dans la même direction. Et beaucoup de choses concernant notre santé émotionnelle sont importantes à considérer si l'on veut être des êtres en santé pleinement, pas juste sur le physique, mais émotionnellement des êtres complets. Donc, prêtez attention à l'heure que je vais lire et on va commenter les passages. On va essayer de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou mieux comprendre comment fonctionne la santé émotionnelle. La première citation que je vous lis est dans le livre « Le ministère évangélique », page 115, paragraphe 1. C'est dit « Ceux qui travaillent pour le Christ doivent être intègres et dignes de confiance, fermes comme le roc sur les principes, mais en même temps aimable et courtois, la courtoisie est l'une des grâces du Saint-Esprit. » Donc c'est un paragraphe qui est en train de mettre l'accent sur lorsqu'on veut toucher des âmes pour Dieu, il faut être faire preuve de beaucoup de tact, parce que la façon dont la personne pense, l'état émotionnel, l'état mental dans lequel est la personne, va beaucoup influencer si on va avoir du succès ou pas dans le fait de gagner cette âme pour Dieu. C'est-à-dire que s'occuper de l'âme de son semblable, c'est la plus grande œuvre qui puisse être confiée à un homme. Et celui qui voudra trouver le chemin des cœurs doit prendre garde à cette injonction. Soyez plein de compassion et de courtoisie. L'amour fera ce que les arguments sont impuissants à faire. Mais un moment de vivacité, un moment de réponse bourrue, un manque de politesse et de courtoisie chrétienne dans quelques détails peut faire perdre l'influence qu'on avait sur ses amis ainsi que les amis eux-mêmes. Donc on vient pour joindre la personne, mais on est tellement brusque, on n'a tellement pas de tact dans notre approche qu'on peut perdre l'influence ou on peut carrément perdre l'amitié qu'on avait avec cette personne qui ne connaît pas Dieu. Dans Conseil à l'Église, page 175, paragraphe 2, c'est-à-dire l'état de l'esprit affecte la santé du système physique. Si l'esprit est libre et heureux, parce qu'il est conscient de la justice, parce qu'il a un sens de satisfaction en œuvrant pour le bonheur des autres, il crée une joie qui réagit dans tout le système, permettant une circulation plus libre du sang et fortifiant tout le corps. Donc lorsque l'esprit est heureux, le corps en ressent les effets et vice-versa. Beaucoup de maladies dont les gens souffrent aujourd'hui sont liées au fait qu'ils ne sont pas bien, qu'ils sont déprimés. Et la dépression, c'est un fléau de notre société actuelle, la dépression. Par exemple, beaucoup de gens ont des maladies du cœur ou vont avoir des crises cardiaques. Et s'ils sont déprimés, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir une autre crise cardiaque par la suite. Donc ce qui est recommandé par des experts, c'est que si la personne passe par une première crise et survit, on va essayer de faire une analyse de son état mental, voir est-ce qu'elle est déprimée, pour voir est-ce qu'il y a des chances, est-ce qu'on doit la surveiller plus que quelqu'un d'autre, parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait une autre crise par la suite. Donc ça, c'est l'effet du mental sur le physique. Les cancers aussi, beaucoup plus de gens meurent plus facilement, plus vite du cancer s'ils sont déprimés que des personnes qui ne le sont pas. Les gens qui vont dans les maisons de retraite, c'est pas toujours parce qu'ils sont très vieux et qu'ils ont perdu tout leur mobilité physique qu'ils se retrouvent là. Souvent, c'est à cause de la perte mentale. Ils sont pas bien dans leur tête, ils sont déprimés et ça les envoie de manière prématurée dans la maison de retraite. Alors que s'ils étaient bien, s'ils n'étaient pas déprimés, ils auraient pu rester plus longtemps autonomes et ne pas devoir avoir besoin qu'on prenne soin d'eux aussi vite. Donc l'état mental a vraiment beaucoup à jouer sur la façon dont on va réagir par rapport à la maladie ou par rapport au changement dans la vie. La mémoire aussi, notre mémoire va être affectée. Si on est déprimé, notre hippocampe va se réduire. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau bien responsable de la mémoire. Et on va avoir une moins bonne mémoire, juste parce qu'on est déprimé. Des maux de tête aussi peuvent venir juste parce que nous sommes déprimés. Et si jamais on était dépendant à quelque chose, qu'on a eu la victoire, on peut retourner à la dépendance parce qu'on est déprimé. Ça peut faire un retour, ça peut nous faire perdre le temps, perdre l'effort que l'on a fait pour avoir la victoire sur une dépendance. Une autre citation, pour un bon équilibre mental et spirituel, page 465, paragraphe 1, je vous invite vraiment à lire le livre « Pour un bon équilibre mental et spirituel ». Ça dit « Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. » Toujours dans le même livre, page 60, paragraphe 2, elle dit « L'imagination provoque parfois la maladie. » Donc juste l'imagination provoque la maladie. Et très souvent l'aggrave. Beaucoup restent invalides toute leur vie, qui seraient en bonne santé s'ils voulaient croire qu'ils le sont. Donc ils traînent une maladie imaginaire. D'autres pensent que chaque petit courant d'air provoquera une maladie. Et le mal vient en effet parce qu'il était attendu. Donc ils sont tellement en train d'attendre d'être malades que ça finit par devenir une prophétie pour leur vie. D'autres meurent de maladies dont les causes sont entièrement imaginaires. Maintenant là, c'est ce qu'elle est en train de décrire, c'est vraiment l'inverse de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est lorsqu'on vous donne un médicament pour pouvoir guérir de quelque chose, mais dans le fond, il n'y a rien dans ce médicament, il n'y a aucune propriété vraiment pour vous guérir. Mais parce que vous ne savez pas qu'il n'y a pas de ces propriétés, vous croyez que ça va vous guérir, eh bien ça peut avoir un effet pour guérir, effectivement. Donc les gens ont fait des recherches et ils ont fait des crèmes pour ceux qui sont chauves pour qu'ils puissent avoir plus de cheveux. Mais il n'y avait aucune propriété dans cette crème pour vraiment refaire pousser les cheveux. Ils l'ont donné à des hommes sans qu'ils sachent si c'est performant ou pas. Et il y en a qui ont mis ça sur le cheveu. 25% de ces gens ont effectivement eu des cheveux qui ont repoussé, alors qu'il n'y avait rien dans le médicament. Ça, c'est l'effet placebo. On croit tellement que ça va nous guérir que le corps réagit en fonction de ce qui est dans notre esprit. Mais ce que je viens de lire, ce qu'elle décrit, c'est pas ça, c'est pas cet effet placebo, mais c'est plus le côté négatif, c'est l'effet nocebo. Alors ça, c'est l'exemple, c'est un peu l'inverse, mais c'est, exemple, si on fait des chimiothérapies aux gens, on va leur dire, parce que vous allez passer en chimio, vous allez avoir des nausées, vous allez vomir, et vous allez avoir des pertes de cheveux. C'est ça qui arrive, hein, en général, quand les gens font des chimios. Vomissements, nausées, perte de cheveux, ils sont faibles, etc. Donc, les gens vont faire l'effet inverse, ils vont dire aux personnes qu'ils vont passer en chimio, mais ce n'est pas une vraie chimio, c'est juste un bluff. Et alors qu'il n'y a même pas eu ces radiations, ben, les gens ont des nausées, les gens vomissent et les gens ont des pertes de cheveux. Pas tous, mais une bonne partie des personnes qui sont passées là, leur corps a réagi juste parce qu'ils étaient convaincus que ça va leur arriver. Mais il n'y a pas vraiment eu de chimio. Ça, c'est l'effet nocebo. Ça veut dire que si on pense qu'on peut être en bonne santé, ça va aider le corps. Et si on pense qu'on va être en mauvaise santé, ça va emmener le corps dans l'autre direction. Donc, c'est vraiment important comment on pense, quel est notre état mental va vraiment avoir une grande influence sur comment on va réagir par rapport à la maladie, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit imaginaire. C'est vraiment la puissance de la pensée qui est incroyable. Toujours dans le même livre, page 672, paragraphe 1, s'écrit « Le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et prolongent la vie. Un esprit content et heureux contribue à la santé du corps et à la force de l'âme. » Et ensuite, elle cite Proverbe 17, verset 22, qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Et non, allez dans la citation en tant que telle, Proverbe, chapitre 17, et le verset 22. Nous allons relire ça, puis nous allons lire la deuxième moitié du verset. Proverbe, chapitre 17, et le verset 22. Proverbe, chapitre 17, et le verset 22. Parlez-moi, Proverbe chapitre 17, verset 22, c'est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Et ensuite, c'est écrit « Un esprit abattu dessèche les eaux. » Esprit abattu dessèche les eaux. Cœur joyeux, bon remède. Ils ont fait une étude en prenant des frères jumeaux, donc les gens qui ont exactement le même potentiel génétique, des vrais jumeaux. Et il y en avait un qui était déprimé, l'autre qui n'était pas. Et puis ils les ont suivis par rapport à leur... parce qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, on perd de la qualité de notre masse osseuse. Ça, c'est juste au vieillissement. C'est pas forcément qu'on attrape une maladie. Donc, ils ont suivi les deux. Et ils se sont rendu compte que celui qui était déprimé perdait de 2 à 4% plus de masse osseuse que celui qui n'était pas déprimé. Donc, quand la Bible dit là qu'un esprit abattu déchaisse les os, c'est vrai. Lui, il va avoir plutôt des problèmes d'ostéoporose que son frère jumeau qui a le même potentiel, qui a le même programme génétique. Ils ont aussi... parce que bon, les os, c'est responsable de notre... ça aide beaucoup au système immunitaire parce que c'est dans nos os que sont produits les globules blancs, nos leucocytes. Et puis les globules blancs, comme on a vu hier, ils aident notamment à tuer les bactéries dans notre corps. Donc lorsque l'on est affecté au niveau des os, ça va affecter par ricochet notre système immunitaire. Ils ont fait le même test en prenant les virus pour la rhume et la grippe et ils ont injecté ça à des gens directement qui n'étaient pas malades. Mais ils savaient que dans l'échantillon de personnes, il y en avait qui étaient déprimés, puis qu'il y en avait qui étaient heureux. Il y en avait qui étaient sous dépression et d'autres qui n'étaient pas. Et ils ont injecté le virus. Parmi ceux qui n'étaient pas déprimés et qui étaient vraiment heureux, il y en a qui ne sont même pas tombés malades. Mais parmi ceux qui étaient déprimés, ils ont attrapé la maladie. Ou ceux qui étaient heureux et qui ont attrapé la maladie, les symptômes ont été bien moindres et ils ont guéri beaucoup plus vite que ceux qui étaient déprimés, qui l'ont reçu et que la maladie a eu le temps de faire tout son travail, etc. L'impact du mental sur le physique est vraiment phénoménal. Je continue toujours pour un bon équilibre. Page 63, c'est écrit « Dans les soins donnés aux malades, l'effet des influences mentales ne doit pas être négligé car elles sont un moyen des plus efficaces pour combattre le mal, comme dans les exemples que l'on vient de voir. » C'est pour ça que beaucoup de corps de métier de la santé aujourd'hui s'intéressent pas seulement à comment la personne va physiquement, mais vont faire une analyse du au niveau mental de la personne. Il y a deux choses aussi qui peuvent affecter la personne au niveau mental. Là, je vous lis toujours le même livre, page 59. C'est écrit « Les maladies de l'esprit règnent partout. Les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là. Peut-être certains foyers abritent-ils un mal qui, semblable à un chancre, ronge l'âme et affaiblit les forces vitales. » Donc souvent le problème est au niveau de la famille même. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le foyer. Parfois c'est le remords qui mine la santé et déséquilibre l'esprit. Il faut compter aussi avec des doctrines erronées. Donc parfois c'est le remords, les gens ont commis des péchés et puis ils sont abattus par la culpabilité. Et la solution à ça, c'est d'emmener le remords, d'emmener le péché à Dieu pour qu'il puisse nous soulager, pour qu'il puisse enlever ce fardeau au-dessus de nos épaules. Ou l'autre chose, c'est parfois parce que les gens ont des doctrines erronées dans leur esprit qui font en sorte que ça les fait vraiment, vraiment souffrir. Et puis ça leur donne une mauvaise impression de c'est quoi le caractère de Dieu, de ce Dieu éternel. Ils voient comme un Dieu méchant qui est prêt à tourmenter les âmes dans l'enfer et tout ça. Et puis ce n'est pas des blagues. Il y a un médecin qui a donné cet exemple dans une de ses prédications. Il disait, il y a une adolescente qui était venue en urgence et elle avait voulu se suicider. Elle avait pris énormément de Tylenol pour se suicider. Et ça, c'est pas pour donner des idées là, mais beaucoup de Tylenol, ça peut aider vraiment au suicide parce que ça va directement affecter votre foie. Donc quand on vous amène en urgence, les médecins vont faire en sorte que votre foie ne soit pas abîmé par cet excès de médicaments dans votre corps. Donc elle a pris tout ce Tylenol et ensuite quand ils ont réussi à la sauver, elle est pas morte parce que son père s'en est rendu compte, etc. et est venu à l'hôpital avec elle. Et ce médecin... Il parlait avec le père, puis il dit, pourquoi est-ce que ta fille a fait ça? C'était une jeune adolescente, pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a fait ça? Puis il a dit, je pense que c'est lié à sa mère, parce que le monsieur était professeur, directeur d'une école, et était marié à une dame qui était professeur aussi dans cette école, et la dame était morte un an plus tôt dans un accident de voiture. Et il se dit, bon, je pense que la fille manque tellement, sa mère lui manque tellement, que c'est pour ça qu'elle a fait ça. Met fin à ses jours à cause de tous les souvenirs, etc. Et ensuite, le médecin est allé, puis il a parlé à la jeune fille. Elle a dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Puis elle a dit directement, c'est parce que je voulais aller rejoindre ma mère. Et là, il lui a dit, mais tu sais que si tu avais réussi dans ton action, tu ne serais pas du tout allé rejoindre ta mère. Elle dit, ah oui. Elle dit, mais je serais où? Puis le médecin lui a dit, tu serais dans le tombeau, là où on t'aurait enterré sous la terre, et tu ne serais pas du tout avec ta mère. Elle dit, mais comment ça? Puis là, il s'est mis à expliquer ce que la Bible dit sur l'état des morts, parce que c'est un médecin adventiste, donc il s'est mis à expliquer à la jeune fille, c'est quoi l'état des morts? Que lorsque tu meurs, tu ne montes pas directement au ciel, comme c'est la pensée populaire, mais tu restes dans la tombe en attendant le jour de la résurrection. Donc ta mère, elle est dans la tombe, et si tu avais réussi ton acte, toi aussi tu serais dans la tombe, et tous les deux, vous auriez attendu le jour de la résurrection, mais tu n'aurais pas été en compagnie avec ta mère en train de te réjouir. Puis elle dit, oh, personne ne m'a jamais dit ça, je vais jamais refaire ce genre de tentative. Puis ensuite, le père est allé voir le médecin, puis lui a dit, je te remercie énormément d'avoir dit ça à ma fille. Comme ça, elle va plus jamais refaire cet acte. Il a dit, je tiens à te dire personnellement que moi, je crois pas à ce que tu as dit, mais je suis content que tu as dit ça à ma fille. Et je vais jamais lui dire le contraire. Donc c'était une doctrine erronée qui l'a poussée à faire cela, parce qu'elle croyait que sa mère était au ciel, et qu'en se suicidant, elle allait rejoindre sa mère. C'est fou, hein, mais ça a vraiment un impact. Il y a aussi un exemple qui est aux États-Unis d'une dame qui s'appelle Susan Smith, qui a pris tous ses enfants, les a mis dans la voiture, puis elle a mis quelque chose là pour peser sur l'accélérateur, puis la voiture est allée et a plongé dans un lac, puis tous ses enfants sont morts. Et... Bon, avec les enquêtes et tout, ils se sont rendus compte que c'était elle qui avait tué ses enfants. Elle l'a avoué et tout, elle l'a emmené en cours. Puis on a dit, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez tué vos enfants? Et elle a dit, c'est parce que je voulais leur épargner ce que j'allais vivre. Elle dit, c'est parce que ça allait très mal avec mon mari. Et je voyais où ça allait aller. On allait divorcer, on allait se séparer. Et les enfants allaient vivre le traumatisme d'être dans une famille divisée. Et je voulais leur éviter ça. C'est-à-dire que je dis, au lieu qu'ils restent là, autant les aider à mourir, comme ça ils vont tout de suite au ciel, ils sont heureux. Et puis moi je subis la chose avec mon mari, mais au moins mes enfants n'en souffrent pas. Donc elle a été condamnée pour avoir essayé de sauver des âmes. C'est fou, mais c'est ce genre de choses qui emmène les gens à se dire que la religion c'est pour les fous, n'est-ce pas ? Que les gens font des actes complètement insensés au nom de Dieu, au nom de la religion. Mais vraiment, si les gens ont des doctrines erronées, quand ils sont sous l'effet du stress, sous l'effet de situations terribles dans leur vie, ils réagissent en fonction de ce qu'ils croient. Et ça, c'est une loi, c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc si on croit des mensonges, on va mal réagir quand la situation va se présenter. Et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir des doctrines erronées dans notre esprit. C'est la même chose pour les kamikazes, n'est-ce pas? Ils vont et puis ils se font exploser là. Mais pourquoi ils se font exploser? Parce qu'ils sont convaincus qu'ils montent au ciel tout de suite et qu'il y a 70 vierges qui les attendent. C'est vrai. Ici, on peut en rire, mais c'est dans les nouvelles. Ça arrive fréquemment. Donc, c'est pas imaginaire, là. Les gens se font vraiment sauter et ils tuent beaucoup de gens parce qu'ils sont convaincus de cela. C'est aussi le fait de mal comprendre l'état des morts, c'est pas bon parce que ça fait en sorte qu'on n'apprécie pas tout le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix. Dans Philippiens chapitre 2 et le verset 8, allez dans Philippiens 2, verset 8. Philippiens chapitre 2 et le verset 8. Philippiens chapitre 2 et le verset 8. C'est écrit, et ayant paru comme... Attends, je vais donner un peu de temps. Philippiens chapitre 2 et le verset 8. Philippiens 2, verset 8, oui, c'est écrit. Ayant paru comme... Il s'est humilié lui-même. Ah, jusqu'à la mort de la croix. Bon, ben ça dépend des versions. Mais sinon, dans la mienne, ça dit ça. En tout cas, je voulais mettre l'accent sur la fin où ça dit la même chose. C'est que s'étant humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Jusqu'à la mort de la croix. Parce que jusqu'à la mort, ça suffit, non? Et pourquoi il dit jusqu'à la mort de la croix? Est-ce que c'est juste à cause des souffrances qu'il a vécues étant crucifié? La réponse est non, parce que beaucoup d'autres personnes ont subi la même chose. Jésus n'était pas le seul crucifié, n'est-ce pas? Il y avait deux brigands autour, bon, vous allez dire qu'ils le méritaient, mais eux ou d'autres personnes qui étaient innocentes sont passées par ces souffrances. Donc, ce n'est pas ça qui fait en sorte que le sacrifice de Jésus est aussi énorme. Ce n'est pas les souffrances qu'on a flagellées, tout ça, et puis d'être crucifié, même si ça fait extrêmement mal. Mais quand ça dit jusqu'à la mort de la croix ici, c'est que la mort que Jésus a expérimentée, c'est qu'il n'était pas sûr qu'il allait sortir du tombeau. Puis moi, pendant longtemps, je n'avais pas compris ça, même si je ne pensais pas que lorsqu'on meurt, on va directement au ciel. Mais ce qui me fait apprécier vraiment le sacrifice de Jésus, c'était de savoir que lorsqu'il priait à Gethsémané, la raison pour laquelle il avait des grumeaux de sang qui sortaient, c'est parce qu'il se dit, si jamais je vais à la croix, je meurs, et que, je ne sais pas moi, j'ai mal regardé quelqu'un, j'ai sorti une insulte, j'ai eu de la colère dans mon cœur qui fait que mon sacrifice n'est pas pur, et Dieu le Père n'accepte pas entièrement mon sacrifice, je meurs et je meurs éternellement, je ne sors jamais du tombeau. Ça fait que Jésus, par amour pour vous et moi, il a pris le risque de ne plus jamais exister. C'est ça la mort de la croix. C'est pas que, parce que s'il disait, bon, je meurs, mais de toute façon, c'est sûr, je ressuscite demain, je monte au ciel, le sacrifice, bon, il est là, mais il n'est plus aussi extraordinaire, parce qu'un être humain aurait pu souffrir aussi, mourir, et puis tout de suite. Mais lui, la question, c'est, est-ce que le Père va accepter le sacrifice? Donc, il est allé par la foi. Père, je remets mon esprit entre tes mains, n'étant pas sûr que. Et c'est seulement après, quand l'ange est venu et a dit, sors du tombeau, etc., qu'il a su, ok, le Père a accepté mon sacrifice, c'est pour ça que je suis de retour à la vie. Donc, avoir une doctrine erronée, ça nous fait minimiser ce que Dieu a fait pour nous. On n'apprécie pas le sacrifice de Dieu pour nous. Donc, les souffrances mentales et le stress ont un grand impact sur notre vie, un grand impact par rapport à ceux que l'on aime. Quelqu'un qui aime, vous êtes marié, votre époux, votre épouse, et puis admettons que votre époux, votre épouse ne partage pas votre foi. La personne meurt, vous êtes convaincu que parce qu'elle est morte et qu'elle ne croyait pas en Dieu, elle va brûler éternellement en enfer pour avoir péché juste quelques années sur cette terre. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée de Dieu? Et parce que vous êtes croyant, mais que vous avez quelque chose d'erroné, ça va créer un stress dans votre corps, une agonie mentale. Parce que la personne est décédée, vous dites qu'elle n'est pas sauvée. Il y a un de mes amis que j'ai rencontré qui a accepté le christianisme et qui croit qu'il faut absolument convertir les gens même quand ils sont morts. Or, son père est mort sans l'évangile. Donc, j'avais une discussion avec lui. Féroce. Je ne voulais pas l'agresser. Mais en tout cas, ma femme est là, elle pouvait témoigner au téléphone. Je disais, verset sur verset pour essayer de le faire comprendre que la personne est morte, oui, mais Dieu le juge selon ce qu'elle a eu comme lumière. Tu n'as pas à prier, à faire toutes sortes de choses, à te flageller là pour qu'un ange aille prêcher à ton père en enfer pour qu'il sorte. La personne t'est convaincue. Et puis... Enfin, c'est pas des personnes idiotes qui pensent ça, là. Je vous parle d'un actuaire. C'est fou comme ce que l'on croit a un impact sur comment on agit. Lui, il s'impose, il va chercher de l'eau bénite, il asperge sa maison et tout, parce qu'il faut sauver son père. C'est sérieux. Toujours pour un bon équilibre mental et spirituel, page 12, paragraphe 1, c'est écrit « Satan est l'auteur de la maladie. Le médecin doit combattre son œuvre et sa puissance. Les maladies de l'esprit règnent partout. Parfois, c'est le remords qui mine la santé et déséquilibre l'esprit. Les incrédules ont exploité ces cas malheureux en disant que la religion mène à la folie. » Donc, ce genre de personnes qui interprètent mal, les gens pensent que nous sommes fous quand nous croyons en Dieu. C'est une grossière accusation dont ils ne seront pas fiers de répondre un jour. La religion du Christ, loin d'être une cause d'aliénation mentale, est l'un des remèdes les plus efficaces car elle est un puissant calmant du système nerveux. Un puissant calmant du système nerveux. Et si vous voulez savoir ce qui est bon pour le système nerveux ou ce qui est bon pour différentes autres choses, lisez la Bible, lisez ce qu'on trouve ici dans les citations de livres que je vous ai donné, mais allez voir aussi ce que disent des experts en la matière, même s'ils n'ont pas forcément la foi. Parfois, les gens se bloquent en disant « je ne veux pas lire qu'est-ce qu'un païen dit sur quelque chose », mais si ce que la personne dit est vrai, on peut tirer de très bonnes leçons. Là, j'ai une citation par rapport à cela, dans le livre « Éducation », où ce qu'elle dit par rapport à ce que des païens peuvent dire ou écrire ou révéler. Elle dit « De même que la lune et les étoiles de notre système solaire brillent parce qu'elles réfléchissent la lumière du soleil, ainsi les grands penseurs de ce monde, pour autant que leur enseignement soit droit, réfléchissent les rayons du soleil de justice. La moindre lueur de pensée, le moindre éclair d'intelligence trouve leur source dans la lumière du monde. » Ça veut dire que ces personnes, quand elles disent quelque chose de vrai, c'est seulement grâce à Dieu qu'elles disent quelque chose de vrai. Donc même les païens dans leur folie, quand ils vont dire quelque chose de vrai, c'est parce qu'ils réfléchissent Jésus-Christ. Là. Donc je peux aller chercher un auteur fort sur la psychiatrie, fort sur le cerveau, qui est bouddhiste, mais c'est pas grave parce que j'arrive avec le filtre de la parole de Dieu et des écrits qu'on a vus dans Ellen White, de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Vous me suivez? Comme ça, on élargit notre connaissance. On analyse tout et on retire ce qui est bon. Parce que les résultats des études que je vous donne, ce n'est pas tous les adventistes qui ont fait ces études, vous me suivez? Donc il faut fouiller et retenir ce qui est bon. Si je vous pose la question, qu'est-ce que Jésus aimait faire le plus dans son ministère? Qu'est-ce que vous direz? Jésus aimait guérir les gens. Mais qu'est-ce qu'il aimait faire le plus? Pardon? Prêcher, j'ai entendu guérir, j'ai entendu prêcher, ok? Prier, il aimait prier. Dans ses discours, de quoi est-ce qu'il aimait parler le plus? C'est quoi qui revient constamment dans peu importe l'évangile que vous lisez? C'est quoi? Sur quoi Jésus insiste? Chercher? Oui, chercher quoi? Oui, la vie éternelle? Ok, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Chercher l'amour de Dieu. Mais pensez à quand Jésus dit, il fait toute sa comparaison, on prie pour avoir telle chose, on prie pour avoir le pain, on prie pour avoir à boire, on prie pour avoir... Puis il dit, ne vous souciez pas de ce sont les païens, n'est-ce pas, qui font cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Puis lorsque il dit, si vous demandez à votre père quelque chose de bon, ne va-t-il pas vous l'accorder? Mais quand il dit quelque chose de bon, à quoi il pense? Le Saint-Esprit. Jésus est tout le temps en train de parler de comment est-ce qu'on doit être rempli du Saint-Esprit. Tout le temps. Il prend tous les besoins qu'on a l'habitude de demander, mais il dit la seule chose importante, c'est le Saint-Esprit. Parce que tout le reste vient après. Donc quand il dit le royaume des cieux, la vie éternelle, etc., il fait toujours référence à être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous apporte justement cette joie, cet équilibre mental et spirituel qui nous permet d'affronter n'importe quelle situation dans la vie. Dans le livre « Message choisi » volume 1, c'est écrit « Le Christ, notre grand maître, avait une variété illimitée de sujets parmi lesquels choisir. Mais il aimait surtout s'étendre sur le don du Saint-Esprit. » C'est ça qu'il aimait dire le plus. Quelle chose magnifique qu'il a fait entrevoir pour l'Église comme résultat de ce don. Mais y a-t-il un sujet dont on s'occupe moins aujourd'hui? Quelle promesse est moins tenu. De temps à autre, on prononce un discours sur le Saint-Esprit, puis le sujet est renvoyé à plus tard. C'est difficile de prêcher sur le Saint-Esprit ou de se concentrer là-dessus, parce que ça vient chercher le temps qu'on passe avec Dieu, la prière, la méditation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit vraiment? Comment Dieu t'a dirigé dans ta vie? Ça devient plus dur. Mais c'est là l'essentiel, c'est là la source. J'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas la citation là, mais il dit que s'il avait donné des paroles, juste quelques phrases sur des lignes directives de la science, on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui en science qu'on ne l'est. S'il avait dit juste 5 phrases sur la physique, 5 phrases sur la chimie, ça aurait donné des pistes aux scientifiques pour fouiller dans cette direction et on serait beaucoup plus avancé. Mais Jésus n'a pas choisi de partager ces choses. Et ce n'est pas ça qui est plus important. C'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Qu'on soit le Saint-Esprit pour nous donner cette force et cet équilibre mental. Maintenant, on va parler de intelligence émotionnelle, spécialement le quotient émotionnel, qui contribue énormément à notre succès et à notre bonheur, beaucoup plus que le quotient intellectuel. Donc, on va comparer un peu le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Donc, quotient intellectuel, tout le monde sait ça, les tests de QI. Qui est-ce qui a déjà fait un test de QI ici? On est juste 2 dans la salle à avoir fait un test de QI. Personne vous a jamais fait de test de QI? Ah, 3? Ok, il y a 3 personnes dans la salle qui ont fait un test de QI. Le test de QI, c'est pas un test parfait là, mais bon, ça donne une idée de notre intelligence, ça donne une idée, ok? Ça fait tellement longtemps que j'ai fait, je me rappelle même plus c'était quoi, sur quoi j'étais tombé là. Mais au début, je découvrais ça, je me demandais même si c'était vrai, je faisais juste ça par curiosité. Test de QI. Le test de QI, est-ce que vous pensez que c'est vraiment lié à votre bonheur? Ceux qui ont un gros QI vont être heureux dans la vie? Non, c'est pas vraiment relié au bonheur, hein. C'est plus le quotient émotionnel qui est relié à votre bonheur et non pas le QI. Par contre, le QI, c'est relié, c'est un gros facteur avec le succès que vous allez avoir lorsque vous sortez de l'université. Le type de travail que vous avez en sortant de l'université, les études ont prouvé que c'est très relié à votre QI. Par contre, comment est-ce que vous allez performer dans ce travail et progresser dans la carrière et atteindre des sommets, là, c'est plus relié à votre QE, votre quotient émotionnel. Est-ce que vous voyez? Donc, vous atteignez, je sors là, vous êtes très brillant, vous avez des A partout, vous sortez diplômé, vous rentrez dans une boîte, mais là, vous ne savez pas communiquer avec les gens, sauf que vous restez toujours à ce même poste. Et l'autre qui est venu en dessous de vous, mais qui a plus de capacité sociale, qui sait comment s'intégrer, qui voit les opportunités et tout, lui, il va plus loin que vous. Donc, les deux sont vraiment importants. QI, c'est en quelque sorte relié au succès, mais le QE, ça va vraiment vous emmener loin dans la vie. Ils ont fait des études, puis ils se sont rendus compte que la plupart des présidents des États-Unis n'étaient pas des gens qui avaient un très grand QI. C'est drôle, hein? Les présidents des États-Unis, là, c'était pas des gens, la plupart, je dis bien, je ne veux pas insulter les présidents des États-Unis, mais la plupart n'étaient pas des gens qui avaient un grand QI. Par exemple, il y avait pas le président actuel, mais le président d'avant, donc comme ça on ne dit pas de nom. Il y avait, pendant qu'il faisait la campagne, il y avait quelqu'un qui disait, est-ce que vous allez voter pour lui alors que moi j'ai eu un QI plus élevé et tout, quand on était dans l'armée, on a fait des tests, etc. Est-ce que vous allez voter une deuxième fois pour lui alors que moi je suis là et j'ai un QI plus élevé? Puis ils sont allés faire des tests et tout, et puis finalement la personne bluffait parce qu'il se trouve que le président qui était en place avait, selon les tests de l'armée, un QI plus élevé que cette personne. Mais juste pour montrer que c'est pas ça souvent, mais c'est des personnes qui ont un très grand quotient émotionnel, c'est-à-dire qu'ils savent gérer les stress de la vie, les situations de la vie, et c'est ça qui leur permet d'être des leaders aussi performants. Et maintenant, pour accomplir des tâches ou quoi qui demandent un grand QI, ben, ils ont des associés pour ça, ils ont des ministres pour ça, vous comprenez? Donc le QE est vraiment important. On peut pas vraiment... c'est très difficile d'augmenter son QI. C'est possible, mais c'est très difficile. C'est beaucoup plus relié à la génétique que l'autre. Par contre, le quotient émotionnel, on peut vraiment travailler là-dessus. Et à chaque fois qu'on apprend à gérer les situations de la vie, on peut grandir énormément dans notre quotient émotionnel. Mais c'est plus dur pour le quotient intellectuel. Les caractéristiques du quotient émotionnel, c'est savoir reconnaître les émotions qui sont en nous. c'est savoir contrôler ou gérer ces émotions qui sont en nous, c'est savoir reconnaître ces émotions chez les autres, c'est savoir gérer nos relations avec les autres, et c'est savoir gérer notre motivation. En général, c'est ces cinq aspects-là qui caractérisent le quotient émotionnel. Donc, est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe en vous? Est-ce que vous gérez bien vos émotions? Est-ce que vous identifiez correctement les émotions chez les autres? Est-ce que vous gérez bien vos relations humaines? Et est-ce que vous êtes quelqu'un où vous savez comment vous motiver pour accomplir quelque chose? Ça, le quotient émotionnel. Alors, il y a des exemples, les gens ont fait des études, encore une fois, qui ont montré à quel point c'est important le quotient émotionnel. Ils se sont rendus compte que dans les années 1950, à l'université en Amérique du Nord, il y avait la proportion hommes-femmes à l'école, c'était à peu près la même qu'aujourd'hui, donc un peu plus de femmes à l'école que d'hommes. Mais ils ont pris les statistiques de qui est-ce qui terminait lauréat dans les universités en Amérique du Nord. Et puis dans les années 1950, vous pensez que c'était qui? C'était plus les hommes ou les femmes? Dans les années 1950, vous pensez que c'était plus? Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'on a plus de femmes dans l'Assemblée, mais c'était 90% les hommes qui étaient lauréats dans les universités d'Amérique du Nord. Ils ont fait aussi des tests de QI, des hommes et les femmes en général, puis ils se sont rendus compte que les hommes en général, ils ont un QI, ils ont de 5 points supérieurs à ceux des femmes en général. Bon, c'est juste des études. Avant, je vais continuer avant que vous dites que j'ai dit que les hommes sont plus intelligents que les femmes. C'est juste que ils ont fait le test, ils se sont rendus compte qu'il y a 5 points de plus en général. Par contre, voici la nuance. C'est que si vous prenez la moyenne, les femmes en général vont plus se retrouver dans une bande où elles ont tous, les QI sont beaucoup plus rapprochés. Alors que les QI des hommes sont beaucoup plus dispersés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est que les femmes sont beaucoup plus moyennement intelligentes, mais les hommes sont beaucoup plus ou super intelligents ou pas intelligents du tout. Vous suivez? Ça fait que les gens qui ont souvent le plus grand QI, c'est des hommes, mais les gens qui ont souvent le plus bas QI, c'est des hommes aussi. Alors que les femmes ont quelque chose d'un peu plus centralisé ou c'est ça, le QI est un peu plus au même endroit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens avec un QI plus élevé que d'autres chez les femmes, mais c'est moins dispersé que chez les hommes. Mais malgré cela, ils ont vu qu'aujourd'hui, donc dans les années 2000, même passé 2010, c'est toujours la même proportion, hein, qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes à l'école. Mais qui sont les lauréats aujourd'hui des universités? Maintenant, à 90%, c'est les femmes. C'est complètement l'inverse. Donc, c'était les hommes avant, puis maintenant, c'est les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les femmes ont augmenté, ont eu un plus grand QI, et puis les hommes sont devenus plus idiots? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? C'est qu'ils ont, ils se sont dit, bon, on va refaire un test de QI pour voir est-ce que ça a une différence. Puis ils se sont rendus compte, non, c'est la même chose. Les hommes ont toujours 5 points de plus, en général, de QI que les femmes. Donc le problème, il n'est pas au niveau du QI, il est au niveau du QI, il est au niveau de la motivation. Les hommes ne sont pas motivés à aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, un médecin adventiste a dit cela, c'était vraiment intéressant. Il a parlé à, donc il a fait ses études, il a parlé à quelqu'un qui était séculier, ils avaient une conversation. Je vais vous dire le résultat de la conversation, mais c'est prouvé par des études aussi. Puis écoutez bien ça, moi j'ai trouvé que c'était pertinent. Ça explique dans nos générations pourquoi on n'est pas tellement motivé les hommes. Donc il partageait avec un responsable d'université où on formait des vétérinaires, puis l'autre médecin adventiste formait d'autres types de médecins, et il voyait ce constat, 90% des lauréats des femmes. Puis dis-toi, dans ton école, c'est comment? Il dit, 100% des lauréats, c'est des femmes. Puis il dit, comment ça se fait? Il dit, quand on a pris les candidatures pour les lauréats, le meilleur homme était moins bon que la... Plus... le meilleur homme n'atteignait même pas le niveau de la femme la moins qualifiée pour les lauréats. Donc ils étaient en train de parler, là, c'est grave, mon frère, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il lui dit, à ton avis, qu'est-ce qui cause cela? Et il lui a dit, c'est la motivation, ils ne sont pas motivés. Allons plus loin, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas motivés? Il a dit, ben, c'est parce que, ben, il dit, dans les années 50-60, quand moi j'étais jeune, donc je parle à la place du responsable là, de l'école de vétérinaire, il dit, avant de voir une femme nue, là, il fallait vraiment courtiser la femme, il fallait faire des efforts, il fallait faire beaucoup de choses pour éventuellement l'épouser, puis voir. Aujourd'hui, les gars, pour voir une femme nue, ils ont juste à se mettre devant l'ordinateur, puis trois clics. Donc la testostérone qui est là pour motiver les hommes, au lieu d'être dirigée vers quelque part où il y a besoin de faire des efforts, puis planifier et tout pour y arriver, maintenant c'est dirigé vers quelque part où il n'y a même pas besoin de faire d'efforts. Et puis ce n'est pas juste Internet, c'est même dans la vraie vie. Pour avoir maintenant la femme, c'est fini là, c'est trop facile. Donc à cause de l'Internet et puis la société de nos jours, puis de la pornographie généralisée, c'est comme si l'ennemi, il a cassé la motivation des hommes. C'est fou. Et puis les études prouvent que c'est là. Les études prouvent que c'est vraiment ça. Donc pendant que les garçons sont occupés à courir derrière les filles, ben les filles vont à l'école. Et ça fait que ces filles se retrouvent diplômées, lauréates de l'université, et les gars de leur âge, à un moment donné, sont là, comme des épaves à côté d'eux. C'est triste, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc, ce qui a été donné pour motiver l'homme, on n'a plus besoin, c'est trop facile. Donc, il faut autre chose pour motiver. Maintenant, il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu crois en la justice, il faut que tu... Vous me suivez? Et c'est prouvé, là. C'était pas juste une discussion entre médecins. Donc, c'est le QE. Et puis, le QE des femmes n'a pas particulièrement augmenté entre les deux, mais celui des hommes est drastiquement descendu depuis les années 50. Qu'est-ce qui influence vraiment notre QE? La génétique, les expériences qu'on a eues dans l'enfance, le soutien émotionnel que l'on a maintenant. Est-ce qu'on a un bon soutien émotionnel ou est-ce qu'on n'a pas un bon soutien émotionnel? Le manque de sommeil, donc les conditions physiques, notamment le manque de sommeil, et puis une pauvre nutrition. Donc ils ont fait une expérience avec des prisonniers, ils sont allés dans une prison, puis ils leur ont proposé à des docteurs qui voulaient faire une expérience, ils ont dit « je vais parler aux diététiciens de la prison et je vais leur proposer de mettre tous les prisonniers sous un régime végétarien parce que je pense que ça va les aider à contrôler leurs émotions ». Donc il a présenté ça aux prisonniers. Puis il y en a qu'ils trouvaient que, bon, je suis en prison, déjà je paye pour les conséquences de mes erreurs. C'est pourquoi, en plus, je vais devenir végétarien et souffrir davantage. Donc il y en a qui n'étaient pas intéressés. Mais d'autres se sont dit, bon, ben, je suis déjà en prison, laisse-moi essayer. Et avec ceux qui ont tenté l'expérience, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ces prisonniers-là se maîtrisaient mieux dans les situations. Il y en a qui rendaient un témoignage, ils disent, ce que l'autre vient de faire là, si on était dehors, j'aurais eu envie de le tuer. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis venu, j'ai discuté, on a essayé de trouver un terrain d'entente et tout. Juste à cause de la nutrition. Et ça faisait en sorte, pour économiser, qu'ils avaient moins besoin de garde pour garder ces prisonniers-là. Donc, le physique, le conditionnement physique dans lequel on est, notamment ici la nourriture, fait en sorte que ça a un impact ou non sur... sur notre quotient émotionnel. L'autre chose, le sommeil. Ils avaient pris des soldats, l'armée avait fait le test, et ils les avaient forcés à veiller longtemps. Et puis là, ils essayaient de voir qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais. Ils essayaient de voir si leur valeur morale allait changer avec le temps qu'ils restaient éveillés. Donc, admettons, si pour pouvoir arrêter la chose, tu dois frapper un de tes collègues 50 coups, ou alors, tu ne fais rien. Ça fait que je veille 2 heures, je veille 6 heures, je veille 24 heures. Mais au bout de 2 jours, il y en a qui ont trouvé que c'est tout à fait correct de frapper le collègue pour sortir. Leur valeur morale change parce qu'ils sont restés longtemps sans sommeil. Donc, l'impact là sur notre corps va changer comment on interprète les choses. Maintenant, Jésus-Christ a été l'effet inverse parce qu'il avait développé un très fort quotient émotionnel. Malgré qu'il est passé à Gethsémané, prière, goutte de sang, on l'a battu la nuit même. Il n'a pas dormi, là, parce que c'est jeudi soir, et il a été crucifié vendredi matin à 9h. Donc il a passé toute la nuit là, en souffrance, il n'a pas dormi. Et en plus, on le battait, et il perdait du sang, et tout, et tout. Et malgré cela, il n'a pas cédé. Parce qu'il a un énorme, il a développé un énorme quotient émotionnel. Et dans notre relation avec Dieu, ce qui compte le plus, c'est ça, c'est ce qu'on développe, ce quotient, cet équilibre émotionnel. Dieu aussi a prouvé, avec l'exemple du Christ, il a prouvé que, qu'est-ce qu'il juge comme étant la plus grande des autorités? Si je vous demande, dans la Trinité, qui est-ce qui a le plus grand pouvoir? Qui est-ce qui est le chef, là, dans la Trinité? Qui est-ce que, hein? Le Saint-Esprit. Jésus, il a été envoyé par Dieu le Père, et Jésus lui-même a envoyé le Saint-Esprit. Donc on dirait qu'on pourrait dire que c'est Dieu le Père. Mais la façon dont Dieu se présente dans la Bible, il y a quelque chose d'autre qu'il met au-dessus de lui-même. Il y a quelque chose que Dieu met au-dessus de lui-même et qui fait qu'il est qui il est. Alors je vais vous lire quelques versets dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. » Dans Jean chapitre 16 et le verset 13, Jésus dit, « Quand le consolateur sera venu, il dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Dans Ésaïe chapitre 65 et le verset 16, c'est écrit, « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jugera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. » Donc, Dieu a mis au-dessus de lui-même le principe de la vérité. Dieu ne ment pas. Il dit toujours, constamment, la vérité. Parce que la vérité est tellement importante qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix. Il n'a pas changé sa loi, il n'a pas changé la vérité pour que nous soyons sauvés. Il était prêt à sacrifier sa vie pour que la vérité reste l'autorité suprême dans l'univers. Quand on fait... Quand on fait des jugements, on doit normalement se baser sur la vérité. Quand on va à la cour, normalement les juges, ils doivent prendre une décision, non pas basée sur est-ce qu'ils aiment ta tête ou non, ou est-ce qu'ils veulent faire gagner telle partie ou non, est-ce qu'il est riche ou non, mais est-ce que c'est la vérité? Puis malheureusement, c'est pas toujours ça qui se produit. Jésus a dit dans Jean 18, verset 37, il a dit, « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde » pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Le quotient émotionnel aussi a beaucoup d'impact sur notre humeur et ça a plus d'impact sur comment nous réagissons que sur ce qui se passe réellement. Donc si une situation arrive, la façon dont nous pensons a plus d'impact sur la situation que ce qu'il se passe réellement. Par exemple, les apôtres Paul et Silas qui ont été battus puis jetés en prison, la réalité c'est qu'ils sont battus puis jetés en prison, mais parce qu'ils croient en une vérité que Dieu les a emmenés à vivre cela, eh bien, ils restent heureux, ils chantent des cantiques en prison. La réalité est triste, mais à cause de ce qu'ils pensent, ils le vivent complètement différemment. Beaucoup de gens ont un pauvre quotient émotionnel, développent pas beaucoup un quotient émotionnel parce qu'ils pensent beaucoup de mauvaises choses au sujet d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez beaux. Ils pensent qu'ils n'ont pas assez de succès dans leur vie. Donc, à cause de ça, ils ne veulent pas développer un grand quotient émotionnel. Il y a une des personnes d'Hollywood qui est reconnue comme une personne de grande beauté qui a écrit ceci en parlant des gens qui veulent vraiment être beaux. Il dit, pour avoir de belles lèvres, dites des paroles gentilles tout le temps. Pour avoir de beaux yeux, vous devez toujours voir ce qu'il y a de bon chez les autres. Pour avoir un visage mince, vous devez partager votre nourriture avec ceux qui n'en ont pas. Et pour avoir de beaux cheveux, vous devez laisser un enfant passer sa main dans votre tête une ou deux fois par jour. En gros, ce qu'elle veut illustrer, c'est que y a une beauté au-delà, n'est-ce pas, de juste à quoi je ressemble physiquement, mais je peux vraiment décider là d'être beau. On disait de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer les regards, n'est-ce pas? Donc Jésus n'était pas ce qu'aujourd'hui on dirait sex symbol, vous êtes d'accord? Par contre, les gens étaient attirés irrésistiblement à Jésus. Comment? À cause de la beauté de son caractère. Parce qu'il avait toujours des paroles aimables, il voyait toujours ce qu'il y avait de bon chez les gens, il encourageait les gens, il les guérissait, il leur apportait des paroles de vérité. Et ça, chacun d'entre nous pouvons développer ces choses. Finalement, une chose que Dieu a besoin de faire pour que nous puissions être guéris et équilibrés mentalement, c'est que nous acceptions que notre esprit s'élargisse pour accepter la vérité. Allez dans Psaume chapitre 66 et le verset 18. Psaume chapitre 66 et le verset 18. Et nous allons terminer avec cela. Psaume chapitre 66 et le verset 18. Psaume 66, verset 18, c'est écrit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Donc on prie, on veut être en relation avec Dieu, mais il n'exauce pas si on a conçu quoi? L'iniquité, donc l'iniquité, le mensonge, le péché. Donc pour que Dieu fasse son travail, il faut que l'on accepte d'élargir notre esprit pour accepter la vérité. Et là seulement sera l'impact de rétablir nos relations avec Dieu. Dieu nous a donné 10 commandements et au niveau du mental, nous pouvons avoir 10 distorsions qui font que nous ne sommes pas en bonne santé émotionnelle. Nous avons la distorsion du tout ou rien. Ça, c'est des gens, c'est nous, noir ou blanc. Il n'y a pas de zone, il n'y a rien d'intermédiaire. Ça, c'est l'exemple Ésaü. Il arrive devant son frère Jacob, il dit « Oh, j'ai faim, j'ai besoin de ton bol de lentilles. Si tu ne me donnes pas ce bol de lentilles, je veux mourir. » Est-ce qu'il allait mourir vraiment? Non, il allait manger plus tard. Mais comme il voit c'est tout ou rien, il pensait que c'était la faim juste parce qu'il n'a pas eu son... Parce qu'il a faim maintenant, il faut la nourriture tout de suite, sinon il va mourir. Ça, c'est tout ou rien. Les gens qui ont en général ces distorsions voient aussi les choses, c'est beau ou c'est laid. Ou c'est des gens aussi qui procrastinent. Parce que comme c'est tout ou rien, pourquoi je vais commencer à travailler maintenant si de toute façon je ne vais pas finir aujourd'hui? Ça fait qu'ils ne commencent jamais. Et puis ils procrastinent. Deuxième distorsion, c'est on généralise trop. Ils ont peur d'être rejetés, comme Élie. En fait, Élie a vécu ça après sa défaite avec Jézabel. Il dit, oh, je suis seul, il y a moi seul qui suis resté comme l'un de tes serviteurs. Puis tu dis, non, vas-y, puis il y en a 7000 autres. Il a expérimenté une fois le rejet, la peur d'être rejeté encore. Ou d'autres qui généralisent trop, comme Pierre. Parce que il a reçu l'évangile, puis il pense que aucun païen ne doit recevoir l'évangile. Il a fallu que Jésus lui donne la vision dans le livre d'Actes pour qu'il comprenne que les païens, l'évangile, c'est pour eux aussi. Il y a une autre distorsion qui est le filtre mental, où on essaie de filtrer toutes les événements de nos vies à travers les expériences négatives. Il y en a qui ont pu surmonter cela, par exemple Joseph, qui a été vendu par ses frères et puis qui a vécu une grande déception là, avec ses frères. Mais quand il a vu ses frères, finalement, eh ben, s'il avait fait le choix de le filtre mental, il aurait pu dire, bon, ben, ils m'ont fait ça il y a je ne sais combien d'années. Ça fait que nous ne sommes plus jamais frères, je ne les reconnais pas. Et les tuer là, ou je ne sais pas, il aurait pu se venger. Mais il a décidé de ne pas filtrer tous les événements de sa vie à travers ce qui était négatif du passé. Une autre distorsion, c'est de minimiser tout ce qui est positif, toutes les réussites que vous avez eues dans nos vies, tout ce que vous avez achevé de bon, c'est normal, de toute façon, c'est ça que je fais. Donc, vous n'arrivez même pas à vous encourager avec ce que vous faites de bon. Une autre distorsion, c'est de sauter aux conclusions rapidement. Donc, vous voyez des gens qui parlent, ils parlent dans mon dos. Vous voyez quelqu'un qui parle et puis ma femme donnait cet exemple, quelqu'un qui marche et puis l'homme s'arrête, il regarde la femme bizarrement, puis il met sa main au niveau de sa poitrine, c'est un pervers. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils étaient sortis quelque part, puis ils voulaient lui remettre de l'argent pour l'aider à payer la facture, puis là, il a regardé, il dit, tu vas vraiment prendre l'argent, puis il a tendu l'argent. Mais vous avez sauté à la conclusion que c'est un pervers. Ça, c'est sauter aux conclusions, c'est une distorsion. L'autre, c'est de tout magnifier ou tout minimiser. Je peux donner ma vie à Dieu quand je veux, c'est pas grave. Rien n'est important. Minimisez tous les péchés. Ou alors faites une petite erreur, vous le magnifiez. J'ai mal fait la bienvenue, je suis pas appelé à parler en public pour le reste de mes jours. L'autre distorsion, c'est vous raisonnez avec vos émotions. Je me sens vraiment pas gentil aujourd'hui. Donc conclusion, je suis pas gentil dans ma vie. Je ne me sens pas intelligent aujourd'hui. Conclusion, je ne suis pas intelligent. J'ai envie... la personne m'énerve. Conclusion, je suis méchant parce que la personne m'énerve. Donc, tout analyser par rapport à vos émotions. Ça aussi, c'est une autre distorsion. Une autre distorsion, la huitième, c'est « Oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Tout est dans le devrait, tout est dans l'éventualité. » Puis c'est quoi la réalité finalement? On ne sait plus. La neuvième distorsion, c'est de mettre des étiquettes sur tout le monde. « Ah, j'ai fait une erreur, donc je suis un moins que rien parce que j'ai fait une erreur. » Eh bien, c'est étiqueté pour la vie que je suis un moins que rien. Et la distorsion numéro 10, finalement, c'est de toujours blâmer, de jamais voir l'erreur qui vient de sa part, mais de toujours la voir chez les autres. À moins les choses qui arrivent, « Ah, c'est de sa faute. Ah, c'est ci, c'est ça. » Et puis, on ne reconnaît jamais notre erreur. Donc, tous ces schémas de distorsion dans beaucoup de personnages dans la Bible ont souffert. Les exemples nous sont donnés là pour que nous puissions guérir de ces choses. Et souvent, quand on arrive dans des situations chaudes, des situations où nos émotions, notre physique et tout est sollicité, que l'on voit vraiment si on a développé une intelligence émotionnelle ou pas. Je conclue par cette citation du ministère de la guérison, page 207, paragraphe 1. Puis les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Donc, combattons ces choses en réclamant le Saint-Esprit, en renseignant sur comment nous fonctionnons et puis en étant positif, surtout positif. Et c'est Dieu qui peut nous aider à faire cela. Et il y a principalement deux choses qui nous amènent dans cet état. C'est soit le remords, soit que l'on pense des doctrines erronées. Puis parfois, comme on dit, on pense qu'on connaît la Bible, en disant, c'est sûr, moi, je n'ai pas de doctrine erronée, je sais ce qui est dans le manuel d'Église, mais ça peut être des choses erronées sur des choses spécifiques dans votre vie, pas forcément quelque chose de si évident que l'état des morts. Donc Dieu va nous révéler qu'est-ce qu'il y a d'erroné qui nous emmène à souffrir pour rien, si seulement on pouvait voir clair. Donc j'invite les gens à venir, on va chanter pour clôturer notre moment de ce soir, et après quoi je vais prier.